Le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International, et aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu au droit à l'avortement en Pologne. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, puisqu'on sait que la Pologne a l'une des lois sur l'avortement les plus restrictives d'Europe. Avec Malte, c'est l'un des deux seuls États membres de l'Union Européenne qui n'a pas légalisé l'avortement sur demande ou pour des motifs sociaux élargis. Pourtant, au XXe siècle, ce pays a été l'un des premiers à alléger les restrictions d'accès à l'avortement sur le continent. Jusqu'en 1956, en Pologne, l'avortement n'était autorisé que dans trois cas: s'il existait un danger de vie pour la mère, ou alors en cas de viol, ou encore d'inceste, et enfin en cas de malformation du fœtus. Cependant, à partir du 27 avril 1956, donc la même année, des motifs sociaux ont été ajoutés aux raisons légales pour avorter. Les femmes qui justifient de conditions socio-économiques difficiles, donc ça va être famille monoparentale, pas ou peu de revenus, une situation de pauvreté générale, ça peut désormais faire partie des critères pour avoir accès à l'avortement. Donc c'est une avancée qui est très importante puisqu'elle intègre la notion de choix pour les femmes et les personnes enceintes. Dans les années 60 et 70, des femmes et personnes souhaitant avoir recours à l'avortement provenant d'autres pays européens se rendaient d'ailleurs en Pologne afin d'interrompre leur grossesse. Donc là, on va se demander pourquoi, comment est-ce que ce pays, qui a été à l'avant-garde en Europe de la protection de ce droit essentiel, s'est-il retrouvé avec l'une des lois les plus restrictives en matière d'avortement ? Un petit retour donc sur les lois promulguées ces cinq dernières années sur l'avortement en Pologne. C'est un droit qui est fragilisé depuis donc à peu près 5 ans, même si ça remonte un petit peu plus loin. De 56 à 93, l'avortement est légal et gratuit en Pologne. Le premier coup qui est porté pour restreindre l'accès à l'avortement a lieu en 93, donc peu après la chute du régime communiste dans le pays. C'est donc un bond de 40 ans en arrière, les conditions socio-économiques sont retirées des raisons légales pour avorter, il reste seulement 3 raisons pour lesquelles les femmes peuvent avorter, je le rappelle, en cas de danger de vie pour la mère, de viol ou d'inceste, et ou de malformation du fœtus. En dehors de ces 3 cas, c'est interdit de pratiquer l'avortement ou d'aider une personne enceinte à avorter sous peine d'une sanction pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison ferme. Les attaques contre le droit à l'avortement reprennent ensuite en 2011. Une série de projets et de propositions de loi sont faites pour restreindre le droit à l'avortement en 2011, 2013, 2015, 2016 et 2018. Elles échouent toutes grâce à des mobilisations massives telles que les Black Protests, largement relayées et soutenues par des mouvements dans plusieurs pays d'Europe et plus de 200 ONG à l'international. Après des années de diabolisation du droit à l'avortement, le tribunal constitutionnel polonais interdit l'avortement en cas de malformation grave et irréversible du fœtus ou de maladie incurable qui menace la vie du fœtus le 22 octobre 2020. Cette décision donne lieu à de fortes mobilisations encore une fois en 2020 et en 2021, violemment réprimées par les autorités polonaises, notamment celles connues sous le nom de « grève des femmes ». Et malgré ces mobilisations, la décision entre en vigueur quand même le 27 janvier 2021, alors que 96% des avortements légaux pratiqués en Pologne l'étaient pour un motif d'anomalie fœtale grave ou mortelle diagnostiquée. Cette décision met donc en danger la vie de milliers de femmes, de filles et de personnes pouvant être enceintes, contraintes désormais d'avorter dans des conditions qui sont dangereuses. Les dates clés sur l'avortement en Pologne sont donc avril 56, légalisation du droit à l'avortement en Pologne. Les raisons légales pour avorter sont élargies et les motifs sociaux sont pris en compte. C'est donc une avancée majeure, mais on a un retour en arrière en 93 parce que les motifs sociaux sont supprimés des raisons légales pour avorter. Et ensuite, entre 2011 et 2018, il y a beaucoup, beaucoup d'offensives contre le droit à l'avortement qui devient finalement le 22 octobre 2020 interdit en cas de malformation du fœtus. Donc c'est le tribunal constitutionnel polonais qui interdit ce cas-là. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? En Pologne, l'avortement n'est autorisé donc plus qu'en cas de danger pour la vie ou la santé de la femme ou personne enceinte, ou si la grossesse découle d'un viol ou d'un inceste. Dans la pratique, cela dit, il est quasiment impossible pour les personnes éligibles à un avortement légal de l'obtenir. Donc, du coup, chaque année, des milliers de femmes et de personnes enceintes quittent la Pologne pour interrompre leur grossesse dans d'autres pays européens. Chaque année, des milliers de femmes et de personnes enceintes quittent le pays, donc, alors que certaines aussi importent des pilules abortives ou alors elles cherchent des moyens qui ne sont pas légaux pour avorter en Pologne. Les femmes et autres personnes polonaises souhaitant avorter, particulièrement celles qui se trouvent dans des situations précaires, dépendent donc de l'aide cruciale des organisations de la société civile qui disposent souvent de ressources limitées, malheureusement. Le 22 septembre 2021, une femme est d'ailleurs morte après s'être vue refuser l'accès à des services d'avortement alors qu'une malformation du fœtus était avérée. Elle s'appelait Isabelle, elle avait 30 ans et elle avait aussi une petite fille de 9 ans. Il y a énormément d'autres cas, évidemment, depuis Isabelle, comme par exemple Dorota Lalique le 24 mai 2023. Et donc, c'est pour ces femmes et pour celles qui risquent leur vie que la mobilisation continue. Il y a des manifestations qui ont eu lieu en octobre et en novembre 2021 dans le pays pour réclamer justice pour la famille d'Isabelle et plus largement l'adoption de nouvelles réformes. En 2021, plus de 1000 femmes se sont tournées vers la Cour européenne des droits de l'homme pour faire valoir leurs droits et contester la loi sur l'avortement en Pologne. En juin 2022, la Cour européenne des droits de l'homme a demandé des explications à la Pologne sur 5 nouvelles affaires concernant des refus d'accès aux services d'avortement. Des membres de la société civile et des associations continuent du coup de se mobiliser pour que l'accès à l'avortement soit de nouveau sûr et légal en Pologne. C'est notamment le cas du collectif Abortion Dream Team qui fait campagne en faveur du droit à l'avortement et qui propose des conseils et des informations pour accompagner les personnes qui souhaitent avorter. Justyna Wydrinska, l'une des fondatrices, a dédié plusieurs années de sa vie à ce combat pour un avortement sûr et légal dans le pays. Et aujourd'hui, cette militante de 47 ans est harcelée par les autorités polonaises. La justice l'a récemment condamnée à 8 mois de travaux d'intérêt général pour avoir aidé une femme à avorter. Le but des autorités polonaises est assez clair, il faut museler toutes les voix qui critiquent leur politique anti-avortement. C'est pourquoi nous sommes à ses côtés et aux côtés de toutes les femmes qui défendent le droit à l'avortement en Pologne, et ce, aussi partout dans le monde. D'ailleurs, on a une action qui est faite pour Justyna, qui est donc condamnée pour avoir aidé une femme à avorter en Pologne, et vous pouvez y participer, puisqu'il suffit d'aller sur notre site amnestyinternational.fr pour demander au procureur général polonais d'annuler la condamnation de Justyna Wydrinska. Justyna doit pouvoir mener son travail sans persécution ni répression. En tout cas, c'est la position d'Amnesty International sur ce sujet. L'accès à l'avortement est un droit humain et personne ne devrait être puni pour avoir protégé ce droit. Donc, encore une fois, si vous voulez participer à cette action et vous mobiliser aux côtés d'autres sympathisants d'Amnesty International, vous pouvez aller sur notre site amnestyinternational.fr pour signer la lettre et l'envoyer de façon électronique ou en physique si vous êtes plus du genre à envoyer des lettres. On reste en Europe et on va faire un petit tour du côté de l'Italie, puisqu'en 2 jours, des centaines d'embarcations de fortune sont arrivées sur l'île de Lampedusa, en Italie. Plus de 6000 personnes étaient présentes à bord. Début septembre, face à ce nouveau drame, la réponse des autorités italiennes est très insuffisante, tout comme la solidarité européenne. On a un nourrisson âgé de 5 mois seulement qui a perdu la vie au large de Lampedusa, dans la confusion des opérations de débarquement menées par les gardes-côtes italiens. Sa mère, une mineure guinéenne, a été sauvée avec les 45 personnes avec lesquelles elle voyageait sur une embarcation partie de Sfax en Tunisie. L'agitation était telle à Lampedusa ces dernières semaines que la tension s'est vite déportée de ce drame, puisqu'en 2 jours, plus de 6000 personnes sur plus d'une centaine d'embarcations ont débarqué sur l'île par leurs propres moyens ou avec l'assistance des gardes-côtes. Ces personnes proviennent pour la plupart de pays subsahariens et nombre d'entre elles sont malheureusement mineures. Elles sont parties depuis la Libye, touchée récemment par le cyclone Daniel, et surtout depuis la Tunisie. Il se trouve qu'en Italie, les moyens d'accueil sont largement insuffisants. Les nombreuses personnes qui ont débarqué à Lampedusa ces dernières semaines, début septembre particulièrement, sont confrontées à l'insuffisance de l'intervention de l'État italien. Les médecins et autres professionnels de la santé et les médiateurs et médiatrices sont en nombre insuffisant pour répondre aux besoins, de sorte que les personnes qui arrivent, après avoir voyagé sur des embarcations de fortune dans des conditions très difficiles, sont contraintes d'attendre parfois plusieurs heures au soleil pour obtenir une première prise en charge et un transfert dans des bus de la Croix-Rouge au hotspot de Contrada Imbriacola. Désolé pour la prononciation. Ce sont donc les forces de l'ordre qui gèrent la situation à l'embarcadère de Favorolo. La Guardia di Finanza y a lancé une charge contre un groupe de personnes exilées. Les images qui ont été filmées sont assez difficiles à voir et indignes d'un réel accueil de la part de l'Europe. Et le seul centre d'accueil de Lampedusa a largement dépassé son seuil de saturation. Plus de 6000 personnes y sont présentes pour une capacité de 400 places seulement. Évidemment, ça engendre une forte promiscuité entre hommes, femmes et personnes mineures, ce qui peut être potentiellement dangereux. Et pour tenter de remédier à la situation, il y a des transferts qui sont organisés, y compris par des navires militaires, vers d'autres régions italiennes. La Libye et la Tunisie avaient conclu un accord avec l'Europe portant sur les flux migratoires. En 2017, l'Italie et la Libye ont signé ce qu'on appelle un mémorandum d'accord sur la coopération dans le domaine du développement, de la lutte contre l'immigration illégale, le trafic d'êtres humains et la contrebande et sur le renforcement de la sécurité aux frontières. Donc, depuis 6 ans, l'Italie et l'Union européenne offrent des financements, des ressources et des informations aux gardes-côtes libyens qui, en retour, interceptent les personnes exilées et les renvoient vers des lieux où elles subissent systématiquement des violations de leurs droits, de droits humains, tels que des actes de torture, des violences et des viols. En juillet 2023, l'Union européenne a signé un accord similaire avec la Tunisie de Kais Saied. Depuis des mois, en Tunisie, les personnes originaires d'Afrique subsaharienne sont donc victimes de violences, victimes d'agressions, d'expulsions sommaires, d'arrestations arbitraires, et elles sont également renvoyées dans le désert, ce qui, évidemment, est extrêmement dangereux. Depuis le début de l'année, les autorités ont durci la répression contre toute forme d'opposition politique et donc incité à la discrimination contre les personnes exilées. Depuis des mois, en Tunisie, les personnes originaires d'Afrique subsaharienne sont donc victimes de toutes ces violences. Et elles sont, encore une fois, renvoyées vers chez elles, mais sur un chemin qui reste extrêmement meurtrier. Mais la route de la Méditerranée est elle aussi de plus en plus meurtrière. Dans le contexte actuel, des personnes continuent de mourir très souvent en mer. L'équipage du navire Nadir de l'ONG allemande RescShip rapporte les témoignages d'un groupe de naufragés secourus lors de leur traversée entre Sfax et Lampedusa. Et malgré la forte augmentation des départs, aucune opération européenne coordonnée de recherche et de sauvetage n'a encore été mise en place et l'intervention des ONG continue d'être entravée. Ces témoins ont fait état d'au moins 40 personnes noyées sous leurs yeux, tandis que coulait l'embarcation en fer sur laquelle ils voyageaient. Donc malgré le fait qu'il y ait énormément de départs, il n'y a absolument aucune action qui est mise en place et on continue d'empêcher les ONG de faire leur travail. C'est même des attaques cyniques de la part du gouvernement qui sont faites contre les ONG. Le gouvernement italien s'obstine à attaquer les ONG qui mènent pourtant des opérations de recherche et de sauvetage en vue d'aider les personnes qui sont sur ces embarcations et d'éviter potentiellement des morts tout simplement. Dernièrement d'ailleurs, il y a le navire Mare Jonio de l'ONG Mediterranea Saving Human. C'est le seul navire de sauvetage civil qui a le pavillon italien. Celui-là, il a été mis à l'arrêt et il a été soumis à une inspection de plus d'une semaine au terme de laquelle l'ONG a été sommée de, je cite, « retirer du navire avant le départ le matériel et les fournitures embarquées à bord pour l'exécution du service de sauvetage ». Le gouvernement italien empêche tout simplement les ONG, et notamment Mediterranea Saving Humans, de faire leur travail. C'est un ordre qui est, selon cette ONG, je cite, « scandaleux et inacceptable ». de même que la menace de conséquences pénales pour nos armateurs. Évidemment, l'ONG conteste la mesure et selon elle, par cette décision, les autorités cherchent un prétexte. Le navire est en effet reconnu comme équipé pour l'activité de recherche et de sauvetage et il est enregistré en tant que tel au registre naval italien. Et pourtant, le navire ne répondrait pas aux critères de deux circulaires émises en décembre 2021 et en février 2022 qui requièrent des caractéristiques techniques particulières en ce qui concerne la coque. Une affirmation qui, souligne Mediterranea, est absurde en soi, puisque le gouvernement italien voudrait en faire la norme pour tous les pavillons européens afin d'entraver l'ensemble de la flotte civile. Au niveau européen, on constate des signes d'opposition à la perspective d'un engagement commun reposant sur le principe de la responsabilité partagée. L'Allemagne a bloqué la procédure de sélection des personnes exilées arrivant d'Italie. Il s'agit du mécanisme de solidarité qui repose entièrement sur le bénévolat et qui est totalement insuffisant, par lequel les pays européens décident d'autoriser ou non le transfert de personnes exilées sur leur territoire. La position allemande semble intervenir en réaction à la décision prise par l'Italie en décembre dernier de suspendre les mécanismes liés au règlement de Dublin, en refusant d'accueillir des personnes exilées qui ont été déménagées en Allemagne après être rentrées sur le territoire de l'Union européenne par l'Italie et dont la demande d'asile au titre du règlement de Dublin doit être examinée par les autorités italiennes. La France a également annoncé son intention de renforcer les contrôles entre Menton et Vintimille. Il s'agit d'une zone où la frontière est fermée et militarisée pour les personnes exilées depuis des années. Compte tenu des positions de Berlin et de Paris, la discussion relative au pacte européen sur les migrations est assez difficile. Les États membres semblent ne s'y être accordés que sur un point, l'abaissement des normes en matière de protection pour les personnes qui arrivent sur le sol européen. Le texte prévoit en effet la mise en place de mesures qui conduiront à des souffrances certainement, dont notamment le maintien en détention sur des périodes allant jusqu'à plusieurs mois de personnes dans des centres fermés près des frontières et la possibilité aussi de renvoyer des personnes en quête d'un refuge vers des pays considérés comme sûrs. Face à la nécessité de repenser toutes ces politiques migratoires et en vue de protéger les personnes et d'adhérer au principe de la responsabilité partagée, le pacte européen, au contraire, risque de créer de plus grandes divisions finalement entre les pays qui sont situés aux frontières extérieures de l'Union européenne et les pays qui sont situés à l'intérieur. Et il s'éloigne de plus en plus du concept de solidarité et de protection des droits, et notamment des droits humains. Évidemment, si vous voulez vous intéresser un petit peu plus à ce pacte européen qui a été mis en place, en tout cas discuté fin septembre, vous pouvez vous rendre sur notre site amnestyinternational.fr où on y détaille les points essentiels qui nous paraissent à nous importants et sur lesquels on aimerait avoir un impact. Et si vous voulez vous aussi avoir un impact sur ces nouvelles discussions, vous pouvez sur notre site amnestyinternational.fr signer les pétitions qui sont en lien avec le problème de Lampedusa et de toute la crise des réfugiés dans son ensemble. Et vous pouvez également interpeller les autorités et les gouvernements européens, et notamment le gouvernement français, puisque nous avons également une lettre à adresser à Emmanuel Macron. Moi, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt sur Radio FM+.